tant qu'il y aura des femmes, avec Lydia Ketty. Votre rendez-vous du jeudi sur Aligre FM 93.1. Bonsoir, bienvenue à l'émission Tant qu'il y aura des femmes sur Aligre FM 93.1. Je vous retrouve chaque premier et troisième jeudi du mois. Ce soir, nous recevons deux entrepreneuses. Et quelles entrepreneuses ? Madame Aline Tacite et Marina Tacite. Mesdames, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à Aligre FM, tant qu'il y aura les femmes. Marina et Aline, vous êtes fondatrices de Boucle d'Ébène Studio. C'est la référence pour la promotion du cheveu naturel.
Tout à fait.
Et c'est une création, donc, faite d'une manière, comment dirais-je, obligatoire, vu votre histoire, c'est ça ?
C'est ça, c'est la, c'est la suite logique.
Vous êtes toutes les deux des Parisiennes d'origine afro-caribéenne, la Guadeloupe.
De la Guadeloupe.
Les deux de la Guadeloupe.
Tout à fait, c'est ça.
Aline, pour vous, comme la plupart des petites filles antillaises ou africaines, l'enfance est une période compliquée.
Alors, en fait, mon enfance a été très heureuse, mais si on parle du sujet du cheveu, qui
on
nous
parle
concerne,
du cheveu,
bizarre. Oui. Effectivement, c'était compliqué.
Et j'imagine que pour Marina, c'était idem.
On a le même parcours, on était sous le même toit. Je suis la sœur aînée, donc même si Aline a beaucoup de bagou, on a vécu la même chose. Voilà, intérieurement, plus intérieurement pour moi, mais elle exprime.
Oui, mais elle s'est défendue un peu plus.
Voilà.
De toute façon, je pense que personne ne va se rendre compte de la difficulté pour une petite fille afro-descendante quand on lui dit que ses descendants sont les Gaulois et qu'elle a en face d'elle, sur son livre d'histoire, des personnes blondes avec des toiles de comment on appelle ça, cette paille, et qu'elles doivent effectivement se reconnaître dans ces personnes. Déjà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on va dire.
Il y a une incohérence déjà qui commence à ce moment-là, effectivement.
Complètement.
Un problème de représentation et de repères, effectivement.
Mais c'est notre problème, justement. Ça a été notre problème pendant des années et ça l'est encore, malheureusement. Un peu moins, mais ça l'est encore.
Beaucoup moins.
On s'est attelé pour changer les choses de...
Oui, absolument.
Donc de l'intérieur.
Ouais. Mais c'est l'exemplarité qui fait le changement, je
absolument.
Pense.
Absolument.
D'ailleurs, pour les contes, pareil, les héroïnes, c'est Reine des Neiges, Blanche-Neige et Cendrillon.
C'est ça.
Donc ça aussi, c'est compliqué.
Mais maintenant, il y a la princesse et la grenouille.
Oui, exactement.
Pocahontas.
Ouais. C'est vrai que ce problème de cheveux, il existe encore, hein, mais on va le voir, bien sûr, mais on avance piano piano. Donc, et
ça.
Puis vous êtes là pour nous défendre aussi. Hein.
Tout à fait.
mais vous avez, j'imagine, donc reçu, votre enfance était à Paris, vous avez eu des phrases agressives ou racistes, on va dire,
c'est vrai. C'est vrai, moi je me rappelle à l'âge de 7 ans, dans la cour d'école, Je me suis vue lancer à la figure sale noiraude. Donc, pour ceux qui connaissent et qui sont de la même génération, la noiraude, c'était la vache noire en dessin animé à l'époque, qui se plaignait tout le temps à son docteur. « Oh, docteur, j'ai mal, ceci, cela », elle est toujours en plainte. Et moi, je ne supportais pas ce dessin animé, mais je n'avais pas compris qu'en fait, c'est parce que... J'ai réalisé, on va dire, que je n'aimais pas ce dessin animé quand on m'a lancé cette insulte et que, en fait, c'était la comparaison de la couleur avec ma couleur de peau qui me renvoyait comme si à quelque chose d'inacceptable, en fait.
Complètement. Voilà. Heureusement que vous avez été une mère excessivement moderne, on va dire.
Oui, complètement.
Hein, complètement.
Avant-gardiste.
Complètement avant-gardiste. Et elle vous a appris donc à aimer vos cheveux.
Oui, à nous respecter nous-mêmes. Au-delà de nos cheveux, à nous respecter en tant que tels.
En tant qu'individu.
On était des Antillaises avec un cheveu, comme je disais, des cheveux grainés, c'est votre cheveu. Vous êtes née avec, vous allez mourir avec. Voilà ce qu'elle aimait dire.
Exactement. D'ailleurs, ils sont très beaux, vos cheveux.
Merci.
Enfin,
merci.
Eh bien, c'est vrai que les femmes afro-descendantes, aujourd'hui et hier encore, vous aussi d'ailleurs, vous êtes passées par des méandres de rejet, quelque part. Pour vos cheveux.
Ah oui, bien sûr. Ben, en fait, quand on est pointé du doigt très jeune par ses camarades, mais clairement par la société ou par le manque de représentation dans les médias, eh bien, on commence à... Enfin, personnellement, j'ai nourri un rejet de moi-même, un rejet de mes traits et particulièrement mes cheveux crépus, très serrés, très denses. qui à l'époque était une était vue et vécue comme une un problème.
Ouais, mais oui, complètement. Mais cela dit, il y a beaucoup de femmes de femmes et d'hommes, on va dire,
oui,
aussi
bien sûr,
afrodescendants qui passent par le même rejet. On le voit encore
aujourd'hui.
Ah oui,
mais c'est notre histoire n'est absolument pas isolée.
Absolument. Mm. Les femmes, en fait, les solutions, et c'est identique, c'est-à-dire c'est ou occulter la teinture du cheveu, soit par des perruques ou des postiches ou des tissages. Donc c'est le même parcours, en fait.
Tout à fait.
Et alors, si on voit un petit peu l'histoire du cheveu, les femmes ont longtemps eu recours au fer brûlant pour effectuer ce qu'on appelle le défrisage à chaud.
Oui, le fer chaud.
À l'époque, je pense qu'on est toutes passées par là. Et c'est même, c'était un rituel. Avant de passer au défrisage chimique, au moment du baptême ou d'un mariage ou d'un événement important. C'est à ce moment, aussi, oui. C'est à ce moment-là, ou la première communion en l'occurrence, c'est à ce moment-là qu'on connaît la première expérience avec le fer chaud. Et c'est quelque chose quand même.
Mais ça veut dire que les produits chimiques viennent des États-Unis. C'est-à-dire que c'est les États-Unis qui nous ont envoyé tous ces produits qui sont qu'aujourd'hui des faisages à froid, on va dire.
Tout à fait. Mais ils viennent des États-Unis. Ils ont inondé le monde entier, hein, enfin toute la diaspora, en Afrique aussi, aux Antilles aussi, en France. Et c'est vrai que pendant très très longtemps, c'était la solution unique présentée par les coiffeurs. Et on a intégré ça comme si c'était une passe obligatoire pour être acceptée et surtout pour être belle, en fait. Considérée comme belle, il fallait modifier la texture de son cheveu.
Absolument. Mais alors, Marina, les produits de défrisage contiennent souvent des allergènes, de la soude, des produits dangereux, on va dire.
Des produits tout à fait dangereux et qui produisent en fait tous les incidents dont on a pu soit connaître personnellement, soit qu'on connaît assurément quelqu'un qui a connu des brûlures à cause du défrisage. Et ces produits-là sont extrêmement dangereux et à ce jour on ne comprend pas pourquoi on puisse les
c'est
utiliser
pas interdit.
Encore que ce soit pas voilà que ce soit pas interdit c'est encore une aberration.
Il n'y a pas des lois en fait pour pardon il y a pas des lois pour dire bah, dans ces produits là il faut enlever tel produit ou tel produit
pour l'instant il n'y a pas de loi et ce qui est aberrant c'est que le dosage pour les défrisants soi-disant pour les enfants et soi-disant pour les adultes sont exactement
les
mêmes.
Mêmes
c'est juste le packaging qui change.
Et ça, il peut y avoir même des cancers, semble-t-il, avec ces produits-là. Est-ce que je me trompe ?
C'est ça. Plusieurs études médicales ont fait le lien entre cancer de l'utérus, fibrome, et j'en passe, et défrisage.
Et
l'utilisation du défrisage. Et donc, c'est une affaire sérieuse, c'est une affaire sanitaire. Et d'ailleurs, le député Serva, j'anticipe peut-être un petit peu, mais on a parlé à l'Assemblée nationale... comme argument aussi pour aller dans le sens de la loi contre les discriminations calculaires.
Les discriminations, oui, absolument, on en parlera. Mm-hmm. Dieu merci, il y a une loi. Mais lorsque le cuir chevelu est brûlé par les produits, est-ce que c'est irrémédiable ?
Ça dépend à quel point. C'est comme les brûlures avec des flammes. Il y a différents degrés de brûlure. Et selon à quel point on a répété le défrisage sur une plaie, oui, ça peut devenir de façon irréversible. Et souvent, on a des clientes qui ont des alopécies, justement, au niveau du plateau, parce qu'elles ont trop fait des frisages qui les ont brûlées. Elles ont recommencé sans cesse. Et quand on ne s'arrête pas à temps, j'ai envie de dire, quand on ne prend pas la mesure de la leçon, et ben, on en subit les conséquences assurément.
Cela dit, on fait pas non plus le lien entre des frisages chimiques et perte de cheveux. Enfin,
pas
les gens...
tout de suite, non. Sur l'instant quand même, on se voit. Moi, je me rappelle encore de la douleur. Hein. On sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas normal et qu'on nous inflige de supporter pour que parce que votre cheveu est dur, parce que cheveux, il faut que le défrisage prenne.
Ouais, je me souviens d'une image de films aux États-Unis où les gens hurlaient parce que c'est tellement.
Mais bien sûr.
En fait, votre expérience personnelle vous a amené donc à réfléchir sur comment sauver nos cheveux et comment sauver notre identité surtout.
C'est ça.
Exactement. On s'est demandé, mais pourquoi on était les seules femmes sur la planète, pas Aline et moi, les seules femmes noires, afro-déformantes, en tout cas avec des cheveux crépus, à faire cette technique aussi agressive et surtout recommencer. On s'est vraiment posé ces questions-là.
Aux États-Unis, on appelle cette dépendance-là « the cream crack ». la dépendance de la crème du défrisage chimique. Et c'est vrai que pour en sortir, personnellement, moi, c'est parce que je me suis brûlé le crâne une énième fois, mais celle-ci était assez violente puisque j'ai dû raser ma tête et j'avais des croûtes sur l'ensemble de ma tête. J'avais 16 ans. Et alors que je voulais être blonde, lisse, et j'étais très très court, crépu, avec des croûtes sur la tête.
Vous êtes magnifique.
Merci. Mais aujourd'hui, quand je me regarde, je suis en mesure de le dire, mais pendant très longtemps, je n'acceptais pas cette image. Et du coup, quand on a décidé d'arrêter avec ma sœur ce défrisage et qu'on a décidé d'assumer nos cheveux naturels, on a vraiment cherché à savoir, à comprendre les dessous des dessous qui nous avaient poussé à aller jusque-là et à continuer pendant peut-être 5, on n'est pas allé très très loin, mais 5 ans, mais déjà là, on se rendait compte qu'il y avait des liens avec notre identité, avec notre histoire.
Bien sûr. Et en fait, vous avez constaté aussi qu'il manquait d'informations et des professionnels pour vos besoins, parce que vous avez cherché des produits, oui. Vous avez cherché des réponses,
ben c'est vrai,
que en vous n'avez pas trouvé.
C'est ça, on retourne au naturel, on décide de revenir au naturel, et là on frappe chez les coiffeurs, donc d'abord les coiffeurs afro, qui nous disent, ben, en fait,
faut défriser.
Voilà, et alors que en fait non, il y a d'autres façons, donc on demandait des prestations, c'était non, les produits qui allaient avec, c'était non. Et quand on est allé aussi, personnellement, j'ai fait la démarche d'aller dans un coiffeur dit traditionnel européen. Mais alors là, c'était l'horreur absolue. Où allez-vous avec cette matière? Donc, en fait, on a trouvé en face de nous aucune réponse à l'époque en mesure de répondre à nos besoins pour gérer nos cheveux naturels. Ni produits, ni informations, ni professionnels. Donc, c'était le néant total.
Cela dit, là où on peut se faire, où les personnes afrodescendantes vont s'occuper de leurs cheveux, et ils vendent des produits, et ils vendent des produits qui viennent des États-Unis, et qui sont des produits dangereux, donc ils ont besoin de vendre leurs produits aussi, ces gens-là.
Absolument, là on parle de la concentration des coiffeurs afro-traditionnels, qui vendent beaucoup de défrisage, ou de tissage, de perruques, etc., ou de mèches, donc ça fait partie des choses qui sont possibles, mais nous n'allions pas dans cette direction. Et quand on a creusé un peu, on s'est rendu compte que ces personnes qui tenaient ces établissements ne connaissaient pas, finalement, on n'avait pas le soin du cheveu. Ils avaient la connaissance du coiffage, du tressage,
oui.
Mais le soin, la compréhension du cheveu et l'accompagnement de la cliente, comme pour n'importe quel autre coiffeur d'ailleurs à l'époque, ça n'existait pas.
Ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'accompagnement. C'était vraiment...
Non.
On exécute quelque chose qu'on a vu, qu'on sait faire. Des tresses, encore ça va. C'est le moindre mal. Les tresses, si c'est bien fait, si ce n'est pas trop serré au point d'arracher les cheveux et d'avoir des alopécies de traction, des tissages ou bien le défrisage qu'avait la côte à l'époque.
Mais j'ai la sensation aussi que ce ne sont souvent pas des professionnels qui font ces salons. Ce sont des gens qui font du business.
Pour beaucoup, oui.
Ouais,
c'est un autre sujet.
Ouais. Donc, ça change votre vie. Toutes les deux, vous changez de vie tout d'un coup. C'est-à-dire que vous, Aline, vous travaillez pendant 6 ans dans un cabinet important d'avocats international.
Oui.
Marina, vous êtes artiste, donc chanteuse, danseuse, etc.
Tout à fait.
Donc, et vous décidez de changer de vie et de vous mettre donc à la défense de cheveux des afrodescendants. Merci beaucoup. Et donc, quel était l'objectif à la création en 2004, je crois? Quel était l'objectif de Boucle d'Ébène Studio? Vous avez décidé, comment vous avez pensé réaliser ce projet?
Alors, à l'époque, on était dans une association qui demandait à chaque adhérent de mener un projet qui lui tenait à cœur. Et nous, c'était une évidence qu'on parle des cheveux et de ce qu'on avait fraîchement découvert, finalement, fraîchement compris, fraîchement réalisé, à savoir l'histoire. Et les conséquences de la méconnaissance de nos cheveux. Donc, on a décidé de créer cet événement qui parlerait de l'histoire, qui parlerait de l'estime de nous-mêmes et qui mettrait en avant toutes les potentialités de nos cheveux.
Mais au départ, c'était un salon, c'était un événement salon.
C'était un événement, effectivement. Voilà. Un événement.
Alors, en 2004, effectivement, nous avons, comme l'a dit Marina, créé cette association, Boucle d'Ébène, qui a mis en place cet événement éponyme, le salon événement Boucle d'Ébène, pendant les trois premières éditions, donc c'était 2005, 2006 et 2007. On a accueilli la première édition 2000 visiteurs à 15 000 visiteurs, la troisième édition. Et durant ces événements, du coup, notre intention et l'objectif de l'association au départ, parce que c'est une association au tout départ, c'était de valoriser nos textures et de valoriser nos identités et surtout d'ouvrir un débat qui n'avait pas été ouvert, qui était tabou à l'époque.
Oui.
Pourquoi est-ce que les femmes noires et métissées se défrisent de façon systématique? N'y a-t-il pas d'autres solutions? Et donc on a, avec Marina, fait des recherches d'abord en France et on s'est très vite rendu compte qu'il n'y avait absolument aucune information ni formation. Et donc nos recherches nous ont amenés aux États-Unis, en Angleterre.
Et, Angleterre.
Et on est revenu avec ces informations qu'on a partagées durant ces événements. On a quand même mis en avant, bien sûr, les acteurs émergents de l'époque qui fabriquaient eux-mêmes leurs produits. Donc il y avait Gillette Le Watt, il y a les secrets de Loli aussi, et avait déjà commencé, elle commençait dans sa cuisine et elle a exposé chez nous. Donc, et il y avait aussi des coiffeurs, il n'y en avait pas beaucoup malheureusement, mais Feu Tage, qui est un très 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 grand coiffeur et qui a été mon mentor en coiffure en France, était là et nous soutenait et soutenait notre action. Mais finalement, il y avait très très peu de coiffeurs, même si on les avait sollicités, ils étaient peu nombreux. Donc, durant ces événements, on avait une partie d'exposition, produits, ventes, accessoires, aussi mode. Et il y avait toute cette partie artistique. Oui, déjà, conférences très importantes. Il y avait Juliette Smeralda, qui avait sorti son premier livre, Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation. Elle était présente également. Mmh. Et il y avait surtout aussi des défilés de coiffure pour la mise en avant de nos matières.
Superbe, on va se mettre dans l'ambiance déjà.
Allons-y.
Allons-y.
Avec plaisir.
Nous allons écouter Cassav.
Ah, waouh.
Yes. Allez.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
ka amone Pasi yo konta se vou ki la Vou se lante me mene La jan di man ka rete Pou mwen prefer dekouve An ki jan la vi pe si kre
Enfin, c'était Kassav et on parlait de Mayo qui nous a quittés. Vraiment, il faut savoir que Kassav a fait le tour du monde en chantant en créole. C'est juste le premier groupe français qui a fait le tour du monde vraiment partout. Il a été au Japon et en Chine en parlant créole. Donc, félicitations à Kassav. Vraiment, c'était incroyable.
Magnifique.
Et vous, Aline, donc, vous rentrez des États-Unis, vous rentrez de Londres, en fait.
Oui, après la troisième édition l'événement Bouclé d'Ébène en 2007, je décide de partir en Angleterre pour me former en tant que coiffeuse, parce que jusqu'alors, j'étais assistante de direction trilingue. Rien à voir, ok. Et pourtant, il fallait changer le monde de la coiffure, donc il fallait que je devienne coiffeuse. Et je ne trouvant pas la formation en France, je suis partie à Londres pendant 3 ans, me former, donc j'ai été directement mise dans le bain des cheveux crépus, frisés, bouclés et loxés à Londres. Je reviens ensuite au bout de 3 ans et quelques allers-retours aux États-Unis, bien sûr. Et avec ma sœur, on crée le premier salon de coiffure Boucle d'Ébène Studio à Bagneux.
Ah ben, c'est ça. Et aujourd'hui, donc, vous avez un nouveau salon qui est au 31 rue Esquirol, donc dans le 13e arrondissement.
C'est ça.
Patronne ici. Et vous êtes, donc, vous êtes la gérante du salon aujourd'hui.
Exactement.
Du nouveau salon. Marina, qu'est-ce qu'un cheveu texturé ?
Un cheveu texturé, c'était pour faciliter le jargon, on va dire, professionnel.
Oui.
Ça comprend un ensemble de typologies de cheveux, tout simplement le cheveu crépus, le cheveu bouclé, le cheveu frisé et les locks. En fait, tout ce qui n'est pas lisse.
Tout ce qui n'est pas lisse, oui.
On l'a rassemblé dans le cheveu texturé.
Bien sûr. Et est-ce que ça veut dire que le cheveu texturé est plus fragile qu'un cheveu lisse ? Est-ce qu'il demande plus de soins ?
Il ne demande pas plus de soins, il demande des soins spécifiques. En fait, comme chaque typologie différente a ses spécificités, le cheveu texturé a des demandes particulières qui ne sont pas les mêmes qu'un cheveu lisse, en fait, tout simplement. Mais ce n'est pas plus de soins, c'est les soins adaptés.
Adapté, ça. Et est-ce qu'il y a un soin indispensable ? Est-ce qu'il y a un soin indispensable pour les cheveux texturés ?
L'hydratation.
C'est ça.
Si on doit rassembler, si on doit sélectionner un soin premium ou prioritaire, ce serait l'hydratation.
Mais ça veut dire aussi que dans un pays, je dirais, chaud, où il y a beaucoup d'humidité et beaucoup plus agréable et beaucoup mieux que dans un pays sec.
Exactement.
Et froid.
Il ne réagit pas du tout la même. Par exemple, quand on va en Guadeloupe, cheveu, on voit bien qu'il n'est pas le même.
Exactement.
Hein. On sent qu'il est bien en place. Et ici, comme on est dans un pays avec un environnement très sec. Voilà, c'est pas pareil, ça réagit pas pareil.
Et vous êtes locticienne, voilà un nom que je ne connaissais pas. Donc vous faites des locks.
Exactement, ma spécialité ce sont les locks, de faire des locks. Ce que j'ai moi, ce sont des systolocks, donc ce sont des locks très très fines. Mais au salon, on propose des locks standard, avec un calibre un petit peu plus épais, pour que ça soit plus gérable pour les personnes qui
pour
portent les locks,
pour
pouvoir les entretenir elles-mêmes si besoin.
Et vous avez une formation pour acquérir le savoir-faire de savoir-faire des locks ?
Oui. Bah, j'étais en Angleterre comme Aline. J'ai pas été aussi longtemps, par contre.
Ah, tout seul en Angleterre.
Oui, parce que le savoir à l'époque, en tout cas, il était là-bas. Donc j'étais me former sur les systolocks et ensuite c'est Aline qui a pris le relais pour ma formation ensuite pour la coiffure en général.
Parce que vous n'êtes pas allé à Jamaïque, parce que bon, nous, on a connu les premiers locks avec Bob Marley, fait connaître. Et c'est un homme qui portait les locks, mais est-ce qu'on peut dire que... cette coiffure est principalement associée au mouvement Rastafari, qui a vu le jour en 1930 en Jamaïque. Et les adeptes du mouvement portent des dreadlocks comme un symbole de leur connexion à Dieu et à la nature.
Oui, alors ça, c'est vraiment les locks que les portent les Rastas ne sont pas les mêmes que nous faisons au salon. La différence, c'est que les Rastas, eux, ont décidé de ne plus se couper les cheveux ni de passer un peigne dedans. Donc, ça fait des locks naturels, c'est du free-forming. Donc, voire même des gombos, des fois on voit des grosses, enfin, oui, une seule vrai, grosse locks. Vrai, ouais. Ça, c'est vraiment leur spiritualité qui est déconnectée de nous, ce qu'on fait au salon, qui sont des locks toujours, mais qui pour nous sont une façon de porter nos cheveux naturellement, de façon plus, organisée. C'est-à-dire que nous, quand on démarre des locks, on fait un traçage bien précis, un calibre bien précis, pour que le rendu, à terme, soit harmonieux.
Mais la personne, en fait, parce que j'ai compris, les locks, en fait, ça se travaille au fur et à mesure. Donc, la personne qui vient chez vous, elle aussi doit travailler son cheveu.
Tout à fait. Les personnes qui portent les locks, qui viennent chez nous ou pas, sont obligées, pour avoir une locks en bonne santé, de retravailler la racine qui pousse sans cesse. Et c'est cette routine qu'il faut avoir quand on a des locks.
Bon, je dois vous dire, mes chers auditeurs, que j'ai en face de moi Marina qui a des locks absolument magnifiques. Donc voilà, donc allez vite au salon si vous voulez des locks. Je sais même pas si je vais pas faire des locks moi aussi. Oui, aussi. Aline, en 2013, vous reprenez le concept du salon, c'est ça ? Vous reprenez l'événement ?
Oui, c'est vrai que quand je suis partie en Angleterre et je suis revenue, on a créé le salon de coiffure cette fois. Ça nous a demandé beaucoup d'énergie, du temps, etc., de l'organisation. Et donc ça c'était en 2011 et on a repris la gestion des événements, donc Boucle d'Ébène, en 2013, après, sachant que le dernier avant était en 2007. Donc en 2013, pour continuer l'éducation, pour continuer la diffusion de l'information et des informations cohérentes sur nos cheveux, et surtout booster l'estime de soi aussi de toutes ces personnes qui avaient besoin d'accompagnement et qui avaient besoin d'être rassurées que tout allait bien, tout simplement.
Mais vous organisez aussi des concours de coiffure avec des professionnels ou des amateurs. Enfin, les
exactement, à l'occasion de la relance de Boucle d'Ébène en 2013, de l'événement, on a créé le premier concours de coiffure dédié aux cheveux crépus, frisés, bouclés et aux locks. Donc le concours s'appelle Be Natural. Et en fait, le concept, c'est qu'on met en avant à la fois les professionnels qui travaillent en salon ou qui ont un diplôme dans la coiffure et qui savent gérer et qui comprennent le cheveu texturé. Et d'autre part, on a aussi souhaité solliciter toutes ces jeunes femmes et ces hommes qui travaillent depuis des années, qui ont un véritable talent. Mais on a des pépites chez nous, incroyables, et qui ont envie de se professionnaliser, donc les mettre en avant à travers ce concours, parce qu'en fait, on est convaincus, à Boucle d'Ébène, qu'il est important de sortir du bois. Il est temps de sortir du bois, parce qu'on a une compétence, on a un savoir-faire qui est unique chez nous. Et tant qu'il ne sortira pas du bois, c'est-à-dire tant qu'on ne sera pas organisé et qu'on ne se professionnalisera pas, eh bien, cette économie,
on
ce
sera
système,
toujours dépendant, en fait.
On sera toujours dépendant. Ouais. Donc, c'est un moyen, ce concours, d'y arriver aussi.
Voilà, grâce à vous, on y arrive en tout cas.
On y travaille.
Absolument.
Donc, vous avez fait combien de salons depuis 2013 ? Vous avez continué à faire des salons aujourd'hui ?
Des salons de coiffure ou les événements ?
Non, les événements.
Alors, on a repris en 2013, il y en a eu un autre en 2015. Le dernier en date, dans le format, dans le grand, grand, grand format, c'était 2017. Et c'était à la Cité des Sciences.
Ouais, à la Villette.
À la Villette. Et donc, pour l'instant, donc le dernier en date, c'était en 2017. Et là, en fait, parce que à chaque époque, on a pris des décisions contemporaines qui allaient dans le sens de l'amélioration, en fait, de, de nos cheveux ou de la vie de nos cheveux. Et donc, à une époque, c'était les événements, les gros événements, parce qu'il n'y avait absolument rien. Depuis, d'autres événements se sont créés, d'autres actions ont été menées par des différentes personnes. Donc, le marché a évolué. Nous avons donc mis notre focus sur le développement de notre salon de coiffure, le développement du concours. Et aujourd'hui, nous ouvrons donc un deuxième salon qui, lui, est hybride, puisqu'il y aura un axe de formation très, très important à l'intérieur et d'autres choses. Et il ouvre donc, il ouvrira dans quelques semaines.
D'ici la mi-mai.
D'ici la mi-mai, oui.
Allegre FM 93.1.
J'avais cru comprendre que vous voulez faire du salon événement, un événement itinérant. Vous voulez aussi le faire aller partout, un peu partout en France ou ailleurs.
Oui, ça fait partie des projets, mm-hmm. Mais il prendra des formes différentes et il sera vraiment focus, donc dirigé dans le sens de l'amélioration de la coiffure chez nous.
Si on fait un peu d'histoire, on peut se rappeler, Marina, de Marcus Garvey, qui est nationaliste, qui a appelé la communauté afro-américaine à aimer ses cheveux,
oui.
Et,
oui.
Et à reprendre son héritage africain. Angela Davis aussi nous avait alerté un petit peu par son comportement et son afro.
Complètement.
Oui. En disant qu'il fallait vraiment revenir à nos origines. La coiffure afro devient aussi un symbole de pouvoir et de fierté des afro-descendants. Donc ça, il faut aussi qu'on l'entende. Et puis les Black Panthers, on dit que Black is beautiful.
Donc, it is really beautiful.
Bah oui,
mais bien sûr.
Mais nous sommes, we are.
Marcus Garvey aussi a aussi dit d'arrêter de se préoccuper des nœuds qu'on a sur la tête, mais de défaire ceux qu'on a dans la tête.
Exactement, c'est vrai. Aline, les cheveux texturés sont singuliers. Il faut connaître peut-être tes gestes simples. Marina nous a parlé des locks tout à l'heure, mais
oui.
On a dit qu'il fallait hydrater.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a encore des choses à faire, encore un peu très simple, quand je me lève le matin
Alors la première chose, c'est de les aimer. Non, mais en fait, c'est pas anodin ce que je dis, parce que c'est apprendre à les aimer, puisqu'on les a désaimés ou mal aimés pendant très très longtemps. Et une fois que on est dans cette démarche là, c'est plus facile de prendre les bonnes décisions. Donc effectivement, la base, c'est l'hydratation. Donc l'hydratation, je précise, par définition, c'est un apport en eau et un agent hydratant. Et ce n'est pas qui est différent de la nutrition, qui a un apport en huile, donc en agent gras, en agent lipidique. Donc l'huile va nourrir, va assouplir, mais l'eau va hydrater et équilibrer et faciliter la prise en main. Si on a besoin de ces deux éléments à des doses différentes en fonction de la texture. Et souvent, plus on a le cheveu crépus serré, comme le mien par exemple, plus il a besoin d'être à la fois très hydraté et quand même avoir une petite pointe de nutrition pour maintenir cette hydratation.
Maintenir, oui. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous créez des ateliers femmes et enfants.
Oui,
tout à fait. C'est intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de familles mixtes. Hein,
oui.
Et donc, souvent, les femmes européennes ont des petites filles métisses. Et on voit souvent, vu l'état de leurs cheveux, qu'elles ne savent pas comment les coiffer.
C'est ça.
Nous, avons eu nos mères qui nous mettaient de l'huile carapate. Ça a été notre premier huile sur les cheveux.
C'est ça.
C'était une belle aventure aussi.
Effectivement. Mais les ateliers parents-enfants, c'était important pour nous parce qu'on avait identifié qu'il manquait un maillon dans la transmission de l'éducation capillaire chez les familles métisses, effectivement. Puisque, par exemple, si la maman est blanche, le père est noir, la maman n'a pas l'expérience d'un cheveu différent. Et donc, elle a souvent des difficultés à comprendre le fonctionnement et à déverrouiller tout ça. Donc, nous, en tant que professionnels, on était là pour faire le lien, pour faciliter cela. Mais il faut savoir que ce n'est pas uniquement les familles métisses qui viennent à nos ateliers, ce sont aussi les familles antillaises ou africaines qui, paradoxalement, on pourrait se dire, elles savent faire parce qu'elles ont des cheveux texturés, crépus, frisés. Et en fait, pas de façon systématique, puisque pendant des années, elles ont défrisé leurs cheveux.
Elles ont fait autrement.
Donc, elles n'ont pas appris à manipuler et elles n'ont pas la gestuelle ni la compréhension. Donc il y a à cet endroit un maillon manquant et c'est ce que, à travers ces ateliers, on répare.
Très bien. Juste une petite pointe encore d'histoire, la culture africaine, le cheveu pouvait être sculpté, tressé, orné, etc. Il y a une jolie histoire aussi, c'est que les tresses africaines pouvaient être un outil d'information. C'est-à-dire, au temps de l'esclavage, les femmes faisaient donc des nattes, enfin faisaient des tresses pour avoir des cartes d'évasion.
C'est ça.
C'est extraordinaire. C'est-à-dire oui. qu'on dit que les esclaves étaient passifs, mais ils n'étaient pas du tout passifs.
Non,
ils
pas du tout.
Chercher des solutions pour partir de leur situation.
Absolument, absolument. Et à l'intérieur même de ces tressages, de ces routes d'évasion, faites avec la sculpture de la tresse, parfois il était inséré aussi des grains de riz
oui.
Qui étaient nécessaires à la survie dans la forêt. Notre cheveu est juste oui. incroyable.
Nos cheveux, c'est notre liberté, en fait, quelque part.
Oh, complètement.
Marina, vous êtes artiste,
oui.
chanteuse,
oui.
Et vous vous occupez en fait, dans votre projet, vous vous occupez de la partie spectacle, défilé pour oui. Boucle d'Ébène, et vous êtes également auteure et compositrice, c'est ça?
Oui, alors pendant les événements de Boucle d'Ébène, je m'occupais de la partie artistique, c'est-à-dire je m'occupais des défilés spectacles. Les défilés spectacles, ils avaient vocation à montrer notre potentiel capillaire et surtout aussi à faire le lien de différentes générations. Parce que comme à l'époque, on n'avait pas beaucoup de représentations, d'images, de modèles, à travers ces défilés, en fait, l'objectif, c'était vraiment de représenter que ce soit les jeunes générations, des jeunes, les moins jeunes et les très âgés, tous ensemble, avec leurs cheveux.
Mais vous, en tant que chanteuse, alors...
Moi, en tant que chanteuse... Je chante. Alors, j'ai eu un parcours assez, on va dire, jalonné.
Dancy
voilà, en dancy. À l'époque, j'étais danseuse. À l'époque, j'étais danseuse. Je dansais. Ensuite, je suis devenue chanteuse jusqu'à ce jour. Mon époque de compositrice et d'auteur, je l'ai mise derrière moi.
Ben parce oui, que, parce qu'on ne peut pas tout faire, malheureusement.
On ne peut pas tout faire.
Mais on va quand même écouter un de vos titres.
Bah, pas de souci.
Et qui s'appelle comment?
À travers toi.
Bon, très bien, que vous avez donc composé.
Que j'ai écrit et que j'ai composé avec deux de mes amis.
Très bien, donc on va écouter À travers toi de Marina.
Rappelle-toi, c'était joli. Changeons le décor. Comme quand on était petit. Une dernière fois encore. Tout est loin d'être fini. À travers toi, c'est tout moi. Je vis, je dors et je respire comme un double karma. À travers toi, je me noie. Quand tu perds pied, c'est moi qui bois un peu de l'eau. Je la passerai avec toi, que le ciel nous inonde. qui bois un peu de l'eau de là.
À travers toi, c'est tout moi. Je vis, je dors et je respire comme un double karma.
À travers toi, je me vois.
Et quand tu pleures, les larmes qui coulent sont aussi pour moi. Elles sont aussi pour moi. Elles sont aussi pour moi.
Donc, nous sommes toujours sur Aligre FM. Vous venez d'entendre un titre de Marina, qui nous a fait le plaisir de nous faire écouter ses productions. Vous êtes toujours à l'écoute de Tant qu'il y a les femmes. Je suis Katie Lydia, toujours. Et je reçois toujours Aline Tassit et Marina Tassit, qui sont fondatrices de Boucle d'Ébène Studio, la référence du cheveu naturel. Aline, est-ce que vous connaissez C.J. Walker?
Of course!
Oh, yes!
C.J. Walker, donc c'est la première femme afro-américaine qui est devenue millionnaire dans les années 30, je crois.
Oui, les années. Elle est née en 1867, exactement.
Ouais, donc dans les années 20.
Ouais. Ouais.
Et qui a donc fait fortune aux États-Unis grâce au développement de produits pour les cheveux, donc qui visaient à équilibrer les problématiques capillaires au niveau du cuir chevelu des femmes de l'époque, parce qu'à cette époque-là, on sort de l'esclavage, donc c'est les femmes qui, elles ont beaucoup de problèmes d'hygiène, et notamment au niveau des cheveux, donc il y a beaucoup, beaucoup de problématiques du cuir chevelu, et donc elle résout ces problèmes-là grâce à ces produits, et le développement de techniques pour pouvoir lisser aussi, graisser à l'époque, hein, c'était ce qui était fait, le cheveu. Donc elle a elle a mis en place toute une organisation,
un
réseau de femmes qu'elle a formé pour pouvoir... c'est extraordinaire. Millionnaire.
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 Oui, absolument. Millionnaire, mais surtout versé vers l'autre et vers la femme. Surtout.
Exactement.
Parce qu'en fait, évidemment, elle crée un réseau de ses produits directs, mais elle organise comme vous, d'ailleurs. Hein, c'est extraordinaire, parce qu'il y a comme ça des sauts de puce.
Oui.
De femmes qui font des choses. Et il y a des moments où on a l'impression qu'entre chaque situation, il ne se passe rien.
Oui.
C'est ça qui est drôle, parce qu'on devrait continuer et monter
l'histoire,
et grimper.
Oui.
C'est ça, et boum, ça s'arrête et il ne se passe plus rien.
C'est ça.
Mais vous êtes revenu, vous êtes là. On dirait que vous êtes une réincarnation.
Alors, les millions arrivent bientôt.
Oui, ils vont arriver, bien entendu, on va tout faire.
Parce qu'on travaille, mais voilà, on va dire ça.
Elle faisait des conférences, des ateliers, des formations.
Vrai. Et elle formait d'autres femmes.
Elle a ouvert un salon de beauté, une école de coiffure afro.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
Mais elle était évidemment fervente militante des droits civiques. Mais c'est complètement...
C'est vrai, mais merci de rappeler cela.
Mais oui, parce que c'est très important.
C'est super important.
J'ai lu beaucoup de choses sur cette femme et je trouve fantastique. Mais il y a comme ça des femmes fantastiques dans l'histoire. Et malheureusement, elles sont souvent invisibilisées parce que c'est comme ça.
C'est vrai.
Donc, vous, Boucle Ébène, vous valorisez les cheveux afro-naturels. Il est donc important de proposer des formations toujours. Ça, c'est bien sûr. La chose la plus importante, à mon avis, c'est de passer l'information.
Absolument. Et d'autant plus qu'on sait, ou on ne sait pas, et je vais peut-être vous l'apprendre, qu'en France, la formation de la coiffure classique, de base, n'intègre absolument pas les cheveux crépus, ni frisés, ni bouclés. Donc, on est formé uniquement et exclusivement sur un cheveu lisse
et caucasien. Tête, voit,
c'est pas uniquement la tête, c'est toute la structure de la pédagogie de la coiffure en France tout est basé sur ce cheveu, comme s'il n'existait qu'un seul type de cheveux. Et donc, par conséquent, ça veut dire que les coiffeurs traditionnels ne sont pas en mesure aujourd'hui, donc là, les choses sont en train d'évoluer doucement, mais de façon globale en tout cas, ne sont pas formés aujourd'hui sur, sur nos cheveux à nous. Donc, ils ne sont pas en mesure de nous accueillir et de réaliser une prestation. Mais nous sommes en train de changer ça.
Oui, nous sommes complètement.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Si je veux avoir une formation, je vais sur votre site et j'envoie un message en disant que je veux me faire former.
Absolument.
Juste une petite chose. Les femmes qui portent des perruques constamment, il y a des dangers à porter ces perruques.
Alors,
il y a des dangers, mais souvent, elles portent des perruques parce qu'elles n'ont pas le choix. Il y a plusieurs
paramètres.
Il y a plusieurs paramètres. Les femmes qui portent des perruques, souvent, c'est pour masquer des alopécies qu'elles ont eues du fait soit de nattes trop serrées, soit de défrisages trop répétés. Donc, c'est une solution de repli. Mais en soi, effectivement, quand on a un cheveu en bonne santé et qu'on porte une perruque, ça ne va pas le faire du bien parce que ça va l'étouffer et ce ne sera pas bénéfique pour ce cheveu. Mais souvent, la perruque, c'est par défaut, j'ai envie de dire.
Et si ce n'est pas par défaut, c'est un choix. Et ça aussi, il faut l'entendre parce que ça fait partie des solutions aussi de coiffure. Même si notre position à nous, Boucle d'Ébène, c'est de valoriser nos textures, on respecte évidemment les personnes qui portent des perruques parce que par choix esthétique ou juste par décision personnelle. Parce que ça aussi, il faut l'entendre. Mais c'est vrai que nous allons accompagner ces femmes garantir la sécurité de leurs cheveux avec une bonne routine capillaire.
Il y a aussi le choix aussi se fait par le fait que les femmes disent que quand elles veulent mettre leurs cheveux naturels, elles ont un problème pour trouver du travail et trouver un poste. Donc ça c'est tellement vrai qu'il y a donc aujourd'hui, Dieu merci, vous étiez donc à l'Assemblée, et Marina, toutes les deux, vous étiez à l'Assemblée. Oui. Et donc il y a une nouvelle loi anti-discrimination capillaire qui a été votée donc le 29 mars 2024. Donc, est interdit aujourd'hui de dire à une femme afrodescendante d'aller se lisser les cheveux si elle veut le poste. Quoi.
Effectivement, en fait déjà, la loi a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Le chemin de l'adoption de la loi n'est pas encore terminé puisque ça doit encore passer au Sénat, mais c'est déjà une très très belle étape. Et effectivement, cette loi, en fait, pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire ? Déjà, elle va compléter le droit français sur le point de discrimination physique, puisque en fait, il y a déjà quelque chose de prévu en France. Cependant, elle va préciser. Au niveau de la texture, on ne peut pas discriminer par rapport à la texture, la couleur ou la coiffure, parce que trop souvent, personnes portant les cheveux crépus, frisés particulièrement, nous sommes invectivés, c'est ça ?
Oui.
Oui, parce que notre texture est considérée comme non acceptable dans les milieux
professionnels. Ouais, considérée comme non professionnelle, c'est souvent ce qui est dit.
Donc en fait,
c'est
ça va permettre.
C'est un peu comme le foulard pour les femmes musulmanes. En fait, c'est le même problème.
Oui, c'est ça. On peut le mettre au même endroit. Et en fait, ça va permettre plus d'égalité parce que les femmes aux cheveux crépus frisés se sentent dans l'obligation de modifier leur texture pour obtenir un poste parce que sans quoi elles sont d'abord jugées par rapport à leurs cheveux et ce qu'ils renvoient dans l'inconscient collectif, d'abord alors qu'elles devraient être jugées pour leurs compétences.
Pour leurs compétences, bien entendu.
Puisque en quoi le cheveu va aider la compétence.
Bien sûr. Mais je pense toujours aux petites filles, parce que évidemment, il y a la transmission qui était indispensable pour qu'elles puissent aimer leurs cheveux.
Oui.
Il faut que leur maman aussi enlève leur perruque quelque part. Parce que c'est compliqué pour une petite fille qui est à l'école aujourd'hui, afrodescendante, et qui, elle a les cheveux crépus, évidemment, et sa mère a les cheveux de suédoise. Donc, il y a quelque chose qui est quand même un peu contradictoire.
C'est
donc,
vrai.
Il y a aussi une contradiction entre le fait que de plus en plus de personnes afrodescendantes revendiquent l'Afrique et revendiquent leurs origines.
Oui.
En même temps, on a quand même des... Aux États-Unis, c'est complètement vrai. Et en France, ça l'est aussi. Quand on est dans la rue, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes filles et de personnes âgées. Tout le monde a des perruques. Et c'est vrai que ça, personnellement, moi, ça me choque.
Alors, la grande différence.
Vas-y, Marina.
Mais là, moi, je dirais qu'effectivement, c'est une réalité. Mais la grande différence par rapport à il y a 15 ans, 15, 20 ans en arrière, c'est qu'aujourd'hui, la proportion des personnes qui portent des perruques, elle est largement réduite par rapport à.
Mais j'espère.
Ah oui, non, mais on vous le confirme. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de.
Beaucoup, je rebondis parce que on est témoin depuis 20 ans de cette évolution.
Oui,
en fait.
Bien évidemment.
Et du coup, on y est très sensible. Il y a 20 ans, on ne voyait pas ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des jeunes femmes qui portent.
C'est vrai, magnifique, j'ai vu.
Magnifiquement aussi. Leurs cheveux crépus, frisés, bouclés, leurs locks, librement, avec beaucoup plus d'affirmation qu'il n'y a 20 ans et en quantité beaucoup plus importante.
Bon, je pourrais faire 2 heures d'émission avec vous parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, le temps passe très vite. Je voudrais quand même dire vos projets d'avenir, ce qui arrive là, le nouveau salon, donc qui va être dans le 13e également. On
n'a
pas encore l'adresse.
Si. On peut la donner. Donc c'est premier.
Esquirol.
1 rue Esquirol à Paris 13e. Donc ça s'appelle Boucle d'Ébène, le Lab.
Super. Ah, parce qu'il y a
une... Boucle d'Ébène Studio et là ce sera.
Mais c'est dans la même rue alors.
Exactement, c'est à 100 mètres.
Ah, d'accord. Super.
Parce que le concept est un peu différent, même si il y a des prestations similaires.
Super. Bon, juste, on veut dire aussi que vous avez quand même, Aline, vous avez pris la parole auprès des managers de L'Oréal. À un moment donné, c'est arrivé,
vrai,
ça.
Tout à fait.
Donc, vous avez dit un peu ce que vous pensez de tout ça et comment on peut évoluer.
Oui, absolument, parce qu'il faut avancer. Et c'est bien d'entendre les personnes qui sont concernées et de leur dire que c'est possible.
Alors, nous allons quitter. Comme je suis triste, on n'a pas le temps de tout dire. Donc, je vous demande, si vous voulez bien avoir plus d'informations, d'aller sur le site de Boucle d'Ébène Studio. Mais on ne peut pas se quitter sans parler de notre déesse, notre écrivaine.
Absolument.
Maryse Condé, qui nous a quittés. Maryse Condé est née en Guadeloupe en 1934. Maryse Condé est une journaliste, professeure de littérature, écrivaine de renommée mondiale. Elle a travaillé comme journaliste culturelle à la BBC et à RFI.
Fondatrice du Centre des études françaises et francophones à l'Université Columbia, elle contribue ainsi à faire connaître la littérature francophone aux États-Unis. Elle a publié une trentaine de romans récompenses, tels que le Grand Prix littéraire de la femme en 1986, celui de l'Académie française en 1988 ou encore le prix Marguerite Yourcenar en 1999.
En mars 2020, la romancière guadeloupéenne reçoit la Grand Croix de l'Ordre National du Mérite, militante de la mémoire, engagée contre le colonialisme. Elle a été la première présidente du Comité pour la mémoire de l'esclavage. Elle décède le 2 avril 2024 à Gordes.
Et on veut simplement lui dire merci parce qu'elle nous a apporté beaucoup de choses. Elle nous a raconté. Elle nous a fait prendre conscience de notre identité.
Absolument.
Mesdames, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. On a passé un super moment. Merci Enrico Mastro Giovanni qui nous a accompagnés à la technique. Merci aux auditeurs pour leur écoute. Et puis, normalement, on doit avoir un titre de Michael Jackson, mais je ne sais pas si on arrivera à le mettre. Et merci aux auditeurs. Et n'oubliez pas, à chaque fois qu'une femme se lève, c'est pour notre humanité. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
has got a shone up. I turn in stone to bread,
and so we all must lend a helping hand.
We are the world, we are the children,
we are the one to make a brighter day, so let's start giving.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.